Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Le pétrole et après. Comment gérer les stocks épuisables d'hydrocarbures et se tourner vers de nouvelles énergies? Vous pourrez entendre la chronique de Philippe Pelé-Clamour sur comment la Russie répond à ces questions. Mais tout de suite, écoutons Charles Immense, chercheur chez EADS, sur la raréfaction des ressources en pétrole.
Bonjour. Le pétrole, une ressource finie. Prenez une bouteille de ketchup suédoise. Des chercheurs de l'Institut suédois pour la recherche sur l'alimentation et la biotechnologie ont étudié son parcours. Les tomates sont cultivées en Italie, la bouteille fabriquée en Angleterre et le bouchon à vis au Danemark. Le produit final est cuisiné et conditionné en Suède avant d'être acheminé et stocké chez le détaillant. Enfin, un ultime trajet du supermarché au foyer du consommateur est effectué en voiture. Les ingrédients et matériaux proviennent ainsi de 7 pays différents et 52 étapes de transport ou traitement sont nécessaires. Cette bouteille n'a rien d'exceptionnel. La plupart des objets de la vie courante connaissent un cycle de vie similaire, rendu possible grâce à l'énergie peu chère et abondante du pétrole. En effet, 90% de nos moyens de transport sont propulsés par des moteurs à explosion, et l'industrie agroalimentaire brûle 10 calories d'énergie fossile pour en produire une seule de nourriture. Le pétrole représente aujourd'hui 36% de l'approvisionnement énergétique mondial, soit environ 84 millions de barils engloutis chaque jour. Un chiffre astronomique qui est la simple conséquence d'une croissance exponentielle de l'exploitation depuis 1859, date de forage du premier puits de pétrole par le colonel Drake en Pennsylvanie. Croissance exponentielle aujourd'hui d'environ 1%, mais qui s'est élevée jusqu'à 7% pendant les décennies 50 et 60, ce qui suscita d'ailleurs en 1977 la remarque suivante du président Jimmy Carter. Dans chacune de ces décennies, plus de pétrole a été consommé que dans toute l'histoire de l'humanité. Les réserves prouvées de pétrole dans le monde sont estimées par l'Agence internationale de l'énergie à 1100 milliards de barils. Malgré ce chiffre imposant, le pétrole est néanmoins bien une ressource non renouvelable. Ainsi, à la vitesse actuelle de consommation, cette quantité est épuisée en moins de 35 ans. Il nous reste donc, semble-t-il, encore du temps. Certainement moins que l'espérance de vie d'un nouveau-né ou que certaines de nos infrastructures de transport, mais beaucoup plus que la durée de vie moyenne des voitures, de 13 ans, des navires et avions entre 20 et 25 ans. Malheureusement, 35 ans, c'est aussi plus long que l'horizon d'homme politique ou que la mémoire des lecteurs. Cependant, le chiffre des réserves est trompeur. Tout d'abord, la demande mondiale de pétrole, alimentée par le désir des quelques 6,5 milliards d'habitants de la planète à améliorer leur mode de vie, continuera sans aucun doute à augmenter. Par ailleurs, et surtout, la production ne peut évidemment pas basculer du jour au lendemain de 84 millions de barils à zéro. En fait, l'extraction de toute ressource non renouvelable atteint un maximum, son pic, en général lorsque la moitié des réserves est épuisée. À partir de ce point, le déclin est irréversible. En 1956, Marion King Hubbert, alors géologue chez Shell, est le premier à essayer de prédire la date du pic d'une région productrice de pétrole. À l'aide d'un modèle simple, une fonction logistique, il estime le pic de production des États-Unis vers 1970. Initialement accueilli avec scepticisme, sa prédiction s'avère cependant remarquablement précise. En effet, depuis 1971, et malgré tous les efforts de l'industrie pétrolière, la production des États-Unis ne cesse de diminuer. Aujourd'hui, environ 33 des 48 plus grands pays producteurs de pétrole sont d'ailleurs déjà en phase de déclin. Inéluctablement, la production mondiale, elle aussi, atteindra très prochainement son maximum, les prédictions variant entre 2005 et 2015. D'aucuns argumenteront que les prix, augmentant, la loi de l'offre et de la demande jouera, et la production se maintiendra. Scénario extrêmement improbable. Tout baril produit doit d'abord être découvert. Or, depuis 1964, soit donc déjà 4 décennies, les découvertes n'ont cessé de diminuer. Elle s'élève à seulement 6 milliards de barils sur l'année 2005, alors que dans le même temps, 30 milliards de barils partent en fumée. Autrement dit, on ne remplace qu'un baril sur 5, une tendance assurément peu durable. Toujours est-il, les conséquences de la raréfaction de l'offre d'or noir sont considérables. Le jeu géopolitique se durcit et le pouvoir se déplace des pays consommateurs aux pays producteurs. Démantèlement de Yukos en Russie, augmentation des redevances des compagnies étrangères au Venezuela, grève en Norvège, enlèvement de personnel au Nigeria, destruction de pipelines en Irak. Dans un contexte où les marges de production sont inexistantes, tout événement a des effets immédiats et violents sur les prix. Or, un pétrole cher remet en cause nos choix de transport. Un litre d'essence suffit pour déplacer une automobile de 3 tonnes sur 10 km. Remplacerons-nous facilement un carburant d'une telle densité énergétique dans les quantités utilisées aujourd'hui ? Il est permis d'en douter. En France, 3% des sols sont occupés par des routes et parkings. C'est plus que les surfaces allouées au logement. Cette infrastructure est indispensable à la circulation de 30 millions de véhicules personnels et à 80% des échanges commerciaux assurés par des poids lourds. Aujourd'hui, l'énergie atteint donc un quart du coût de revient de transport routier et cette fraction est amenée à croître. La contrainte des distances, dont les pétroles nous a longtemps affranchis, devra être de nouveau prise en compte. Notre civilisation doit dès maintenant se réinventer. Enfin, la combustion du pétrole a pour déchet le dioxyde de carbone. Mètre cube après mètre cube, les quantités rejetées sont si énormes que la composition de l'atmosphère se trouve modifiée. Par chance, le déclin de la production de pétrole nous préserverait ainsi du pire du changement climatique. À condition, bien évidemment, d'avoir la sagesse de ne pas nous en remettre au charbon, que ce soit pour la génération d'électricité ou pour la synthèse de carburant par des procédés de liquéfaction. Ce serait alors ouvrir une nouvelle boîte de Pandore.
Les relations politiques entre les pays exportateurs de pétrole et les pays importateurs, et donc les relations internationales dans leur ensemble, puisque le pétrole est aujourd'hui un des nœuds politiques mondiaux, tout cela va être recomposé en fonction de nouvelles données énergétiques, nouvelles données qui créent déjà des tensions vu la rareté progressive du gaz et du pétrole. Alors, dans ce contexte, comment est-ce que la Russie se prépare à un tel avenir, celui de la raréfaction progressive de la manne financière que représentent pour Moscou le gaz et le pétrole, quelles conséquences pour ses relations avec l'Europe? Voici le point de vue de Philippe Pelé-Clamour, président de Thaïs Capital Partners, qui est un fonds d'investissement dédié à l'Eurasie. Il est également conseiller du commerce extérieur de la France et directeur de la publication du bimensuel Le Courrier de la Russie. On l'écoute.
Bonjour. Aujourd'hui, dans Regards croisés, nous aborderons l'énergie en Russie, puissance et renouveau. Le géant russe, ébranlé par le séisme qui l'a secoué dans les années 90, ne s'est pas assoupi. Il s'est relevé et remis en marche en claudiquant de moins en moins. Même si certaines parties de son corps souffrent d'ankylose héritée de son passé, il est animé d'une volonté frénétique pour rattraper son retard. Manne providentielle, le renchérissement des matières premières énergétiques lui confirme des perspectives d'avenir prometteuses. Deuxième plus grand exportateur de pétrole après l'Arabie Saoudite, sa consommation, qui ne représente qu'environ 22% de sa production, lui permet de dégager un fort excédent. Ses réserves lui assurent une production d'environ 17 ans au rythme actuel. Néanmoins, la situation de cette ressource est difficile à estimer, car toutes les potentialités de la Russie n'ont pas été explorées dans son large territoire. Une révision de son stock, avec ce que l'on appelle les réserves prouvées, serait un nouvel élément à prendre en compte et à analyser. Moscou dispose de plus de 30% des réserves mondiales de gaz, ce qui en fait le premier producteur au monde devant l'Iran et le Qatar. C'est le premier exportateur mondial, et ses réserves lui permettent une production d'environ 75 ans en rythme actuel. Quant au nucléaire, on oublie trop souvent que la Russie est, avec les États-Unis, la France et le Japon, l'un des tout premiers acteurs. Une collaboration intensive en matière de sécurité nucléaire, existe dès le début des années 90, notamment dans le cadre de la WINO, la World Association of Nuclear Operators. Par ailleurs, la Russie dispose sur son territoire de ressources d'uranium, la mettant à l'abri d'une quelconque dépendance dans ce domaine. Enfin, n'oublions pas le charbon. Deuxième rang des réserves mondiales, derrière les États-Unis, elle n'est aujourd'hui que le cinquième producteur derrière la Chine. Les États-Unis, l'Australie et l'Inde. Ces réserves sont susceptibles d'être utilisées pour son propre développement. L'énergie devient une denrée rare et convoitée au moment où s'affirment les besoins des pays émergents et où ne semble pas décroître, bien au contraire, l'appétit des pays industrialisés. Ceux qui disposent de réserves énergétiques ou qui viendraient à les contrôler sont en passe de devenir les arbitres du jeu international. Voilà une opportunité que la Russie ne saurait laisser passer. Avec un réalisme parfois brutal, elle entend bien profiter de cette situation. Au plan régional d'abord, en continuant à peser sur son étranger proche, notamment en Ukraine, pays qui, pour des raisons historiques, identitaires, économiques et stratégiques, occupe une place prioritaire. En Azerbaïdjan et au Kazakhstan, qui eux aussi bénéficient de la manne énergétique, mais aussi en Pologne et dans les pays baltes. Sans surprise, on relèvera que dans cet étranger proche, la Russie est le premier investisseur dans le secteur énergétique. Au plan européen, la difficulté pour l'Union européenne est d'articuler sa politique de voisinage et son partenariat avec la Russie, qui connaît une dynamique propre. L'Union européenne, qui a publié un livre vert intitulé « Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable », s'inquiète de la faible diversité de ses approvisionnements énergétiques, notamment gaziers. En effet, la Russie livre à elle seule 16% des importations européennes de pétrole et jusqu'à 25% de gaz. À l'inverse, ce secteur contribue à plus de 40% du budget fédéral russe. Soulignons aussi que les relations de la Russie avec ses grands clients sont négociées dans un cadre bilatéral. C'est le cas pour Gaz de France et Gazprom, qui ont signé un contrat d'approvisionnement jusqu'en 2030. Au plan économique, après la reprise en main des secteurs stratégiques, il s'agit de doper son industrie et le secteur de la recherche avec les devises que le marché pourvoira, mais aussi de tirer profit de l'économie mondiale par des placements judicieux de capitaux et des participations dans les grands groupes mondiaux. À ce titre, la prise de participation dans EADS, le rachat de Getty Oil Distributions aux États-Unis ou encore le poids de Gazprom, devenu aujourd'hui la troisième capitalisation mondiale, sont autant d'indices d'un nouvel équilibre en gestation ou d'acteurs à prendre en compte. Enfin, au plan international, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, membre du G8, enfin admis à l'OMC, rejetant l'OPEP, mais acteur, moteur, pour ne pas dire fondateur, dans la réalisation du projet ITER, qui est un projet de fusion thermonucléaire contrôlée dont le centre de recherche est installé à Karadash, dans le sud de la France, la Russie est aussi présente au sein de l'organisation de Shanghai avec les pays d'Asie centrale et la Chine. La diversité des partenariats énergétiques est un objectif prioritaire pour le gouvernement russe. Dans la rhétorique gouvernementale, le marché des énergies fossiles, dont la Russie doit émerger comme le pivot du futur, joue le rôle de vecteur d'expansion de son influence géopolitique. Si par son histoire, l'étendue de son territoire et l'importance de ses ressources naturelles, la Russie reste indubitablement une grande puissance, c'est une puissance marquée par plusieurs paradoxes. Une attirance naturelle pour la sphère européenne, mais une ambition intercontinentale. Une volonté de s'intégrer dans le modèle économique occidental, mais des réflexes nationalistes très forts. D'importantes disponibilités financières liées aux exportations énergétiques, mais des investissements technologiques très faibles. Demain, si les cours du pétrole et du gaz se stabilisent ou augmentent, la Russie disposera à l'horizon 2010-2015 d'une rente qui pourrait lui permettre de développer son industrie, non seulement dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans des secteurs de pointe comme l'aéronautique ou l'électronique, concurrençant ainsi les pays occidentaux dans leur domaine d'excellence. Trop souvent, nous envisageons ce que j'appellerais l'affrontement en focalisant notre attention sur les rivalités économiques et financières à l'intérieur de notre monde occidental. Or, les normes et procédures du type Sarbanes-Oxley ou encore les nouvelles régulations européennes vont alourdir notre compétitivité et la marge de manœuvre de nos groupes industriels. A contrario, elles sont un avantage dans l'intégration et la recherche de prises de participation pour les nouveaux acteurs que sont la Russie, la Chine ou l'Inde, dans les secteurs stratégiques. Les nouveaux entrants bénéficient ainsi aisément de notre complexe de supériorité. Donnez de la voix, donnez le ton en jouant sur les cordes sensibles d'un monde sous perfusion, dépendant du réseau oriental, de l'éoduc et de gazoducs comme autant d'artères vitales. Voilà un exercice subtil et audacieux auquel les dirigeants de la Russie semblent pouvoir se livrer, tant que des voix dissonantes ne se font pas entendre en son sein.
Ces deux chroniques, celle de Philippe Pellet-Clamour que vous venez d'entendre et celle de Charles Immense diffusée un peu plus tôt, se trouvent par écrit sur notre site internet. Vous pourrez également trouver les références de leurs publications et si vous le voulez, vous trouverez un lien vers notre partenaire Amazon.fr. Cette émission est en libre téléchargement sur canalacademy.com comme le millier d'émissions que nous vous proposons. Bonne journée ou bonne nuit, suivant le moment où vous nous écoutez.